Henri de Cleste, Les Amours de Saint-Domingue, chapitre 4. Cependant, Tony, qui s'était mise au lit pour mieux tromper le nègre, se releva dès que le silence régna de nouveau dans l'habitation, et sortant par une porte secrète, elle prit la route par laquelle devait arriver la famille Stromli. Son cœur était suffoqué par le plus amer désespoir. Les regards pleins de mépris que lui avait jetés son amant avaient pénétré comme des lames tranchantes dans le fond de son âme. Il se mêlait à son amour un sentiment profond de tristesse et d'amertume, et elle ne désirait plus que de mourir en faisant un dernier effort pour le sauver. Après avoir attendu quelques instants cachée derrière un pin, elle entendit la voix de Nanki. Et elle aperçut, à l'aide du premier rayon de l'aurore, la petite troupe qui s'avançait sous les arbres de la forêt. Elle était composée de M. Stromli, de sa femme et de ses cinq fils, dont les aînés, Aldebert et Gottfried, n'étaient âgés que de 17 et 18 ans, de 3 domestiques et de 2 servantes avec un nourrisson. Tony, s'approchant doucement, fut aussitôt reconnu de Nanki qui la conduisit vers le chef. « Noble monsieur, dit-elle en interrompant ses salutations, le nègre Wango est revenu inopinément avec sa troupe. Vous ne pouvez approcher de l'habitation sans le plus grand danger. Votre neveu qui s'y trouve prisonnier est perdu si vous ne vous armez aussitôt pour venir le délivrer. » « Dieu du ciel !» s'écria avec effroi chaque membre de la famille. Et Madame Stromli, déjà affaiblie par la fatigue et la souffrance, tomba sans connaissance dans les bras de ses femmes. Tony, prenant à part M. Stromli et les hommes de sa suite, leur raconta, en versant des larmes de honte et de repentir, tout ce qui s'était passé entre elle et l'officier, et elle ajouta avec passion qu'elle voulait employer sa vie et sa mort à le délivrer de la situation où elle l'avait elle-même entraîné. « Mes armes !» cria M. Stromli en s'approchant d'un mulet qui en était chargé et prenant son fusil. « Le cousin Gustave a sauvé la vie à plusieurs d'entre nous » ajouta-t-il en distribuant des fusils à ses fils courageux et à ses fidèles domestiques. Les femmes furent renvoyées à Morwenver sous la conduite de Nanki, à qui l'on avait lié les mains par précaution. Et M. Stromli, se plaçant à la tête de sa petite troupe, suivit Tony. Dès qu'ils furent parvenus à la porte de derrière, Tony montra à M. Stromli la chambre où reposaient Congo et Babécan. Et tandis qu'il s'y rendait sans bruit avec sa suite, elle entra dans l'écurie où dormait le second bâtard de Congo. Connaissant toute la tendresse que le nègre avait pour ses deux enfants, elle le prit dans l'intention de s'en servir, ainsi que de Nanki, pour acheter la vie de l'étranger, et réussit à le porter sans être vu dans l'intérieur du bâtiment. M. Stromli, ayant pénétré avec ses gens dans la chambre de Congo, le trouva debout, ainsi que Babécan. Ajustant son fusil, il déclara qu'ils étaient morts s'ils ne se rendaient. Mais le nègre, pour toute réponse, détacha un pistolet de la muraille et le déchargea contre M. Stromli. Toute la suite de ce dernier, à ce signal, tomba sur le nègre. Wango, après avoir tiré un second coup qui renversa un des blancs, fut blessé à la main, pris et lié fortement, ainsi que Babécan, au pied d'une grande table. Les nègres, éveillés par le bruit, se précipitèrent hors des écuries, et malgré la dépense opiniâtre des blancs qui leur envoyaient des balles par les fenêtres, ils tentaient d'enfoncer la porte de la maison, lorsque Tony, tremblante, arriva avec l'enfant. M. Stromli, levant sur lui son couteau de chasse, dit à Congo qu'il allait égorger cet enfant s'il n'ordonnait à ses nègres de se retirer. Wango, dont la force était épuisée par la blessure qu'il venait de recevoir et inquiet pour la vie de son enfant chéri, cria aux nègres, en agitant son mouchoir, qu'ils pouvaient rentrer dans leurs écuries parce que sa vie ne courait aucun danger. Les nègres, ne comprenant pas trop pourquoi ils recevaient un tel ordre, se retirèrent en murmurant, et le calme se rétablit. M. Stromli dit à Congo qu'il n'avait d'autre dessein que de délivrer son neveu et de partir avec lui pour le port au prince, que s'il ne mettait point d'obstacle à leur départ, il ne lui fera aucun mal et lui renverrait ses enfants dès qu'il serait en sûreté. » Tony, s'approchant de sa mère avec la plus grande émotion, saisit sa main pour prendre congé. Mais celle-ci, la repoussant avec horreur, la nomma d'une lâche traîtresse et appela sur elle la malédiction du ciel. « Je ne vous ai point trahi, » s'écria Tony. « Je suis blanche. Je suis fiancée au jeune homme que vous retenez prisonnier. J'appartiens à la race de ceux que vous persécutez, et c'est devant Dieu que j'aurai à répondre de ma conduite. » Alors, M. Stronley, ayant promis à Congo qu'il laisserait ses deux enfants, Nanki et Sepi, à Sainte-Luz, où il pourrait les faire prendre au bout de quelques jours, prit le bras de Tony qui, combattu par divers sentiments, ne pouvait s'empêcher de pleurer amèrement et sortit avec elle, accompagné des malédictions de Babécan. Pendant ce temps, Aldebert et Gottfried, par l'ordre de leur père, avaient pénétré dans la chambre de leur cousin, et s'étant rendu maître des deux hommes qui le gardaient, ils délivrèrent Gustave de ses liens. Après l'avoir embrassé, ils lui présentèrent ses armes et le prièrent de les suivre auprès de leur père. Mais l'officier, assis sur son lit, leur serrant affectueusement la main, resta silencieux et dans l'attitude d'un chagrin inexprimable. Dans ce moment, M. Stromli entra avec l'enfant et Tony. À cette vue, Gustave pâlit, et saisissant un des pistolets que lui présentaient ses cousins, il ajusta la jeune fille. Le coup ayant porté dans son sein, elle poussa un cri, fit quelques pas en avant et tomba aux pieds de son amant. « Insensé !» s'écrièrent M. Stronley et ses deux fils, et ils coururent à elle pour la secourir. Mais elle les repoussa, et leur montrant son assassin. « Dites-lui » murmura-t-elle, « dites-lui !» Et sa voix mourut sur ses lèvres. Les jeunes gens, se rapprochant de leur cousin, qui était resté immobile, lui demandèrent s'ils ne savaient pas que Tony était sa libératrice et qu'elle devait partir avec eux tous pour le Port-au-Prince. Alors, jetant un regard sur sa victime nageant dans son sang, il dit qu'elle l'avait lâchement trahi et livré à Congo dans la nuit. « Oh !» s'écria Tony en élevant sa main vers lui et le regardant avec amour. « Je t'ai lié pour... » Mais elle ne put continuer et retomba privée de force entre les bras de M. Stronley. « Pourquoi ?» demanda Gustave, pâle et en s'agenouillant devant elle. Après un instant de silence, pendant lequel chacun avait espéré qu'elle parlerait encore, M. Stronley dit à son neveu qu'elle l'avait livré à Congo parce que c'était le seul moyen qui lui resta de conserver sa propre vie et de sauver la sienne. « Quoi ? » s'écria Gustave en cachant son visage dans ses mains. « Ce que vous me dites est-il vrai ?» Et passant son bras autour du corps de Tony, il la pressa sur son cœur brisé. « Ah !» dit Tony, « tu n'aurais pas dû te méfier de moi. » Et elle expira. M. Stromley, appelant un vieux domestique, qui dans plus d'une occasion lui avait servi de médecin, lui ordonna de retirer la balle du sein de l'infortuné et de lui donner tous les secours possibles. Mais il était trop tard, son âme était déjà partie pour un séjour plus heureux. Tandis que M. Stromley s'occupait avec ses fils de ses tristes soins, Gustave, s'emparant d'un second pistolet, le déchargea dans sa bouche. Tous les soins se tournèrent sur lui, mais ils furent inutiles, son crâne était fracassé. Ses parents, accablés par ce nouveau malheur, restèrent à gémir sur le corps des deux infortunés jusqu'à ce que les rayons du soleil venant frapper leur vue les avertirent qu'il fallait songer au départ. Ils enlevèrent les deux cadavres et les placèrent sur une planche pour les emporter, ne voulant point les laisser exposer aux insultes des nègres, et le triste convoi se mit en route pour Mauvelwen. M. Stromley, l'enfant dans ses bras, marchait devant. Ses deux plus forts domestiques le suivaient, portant les cadavres sur leurs épaules. Le blessé venait ensuite, appuyé sur un bâton. Adelbert et Gottfried, armés de fusils, fermaient la marche. Les nègres, les voyant si faibles, firent mine de vouloir saisir leurs armes. Mais Wango, que l'on avait délié, vint au haut de l'escalier leur ordonnant de rester tranquille. Il cria à M. Stromley. À Saint-Luz. Oui, répondit celui-ci, à Saint-Luz. Et la petite troupe atteignit les bois, sans être poursuivie. Après avoir échangé les anneaux des deux fiancés, la famille désolée les enterra. Monsieur Stromli fut assez heureux pour atteindre, au bout de 5 jours, Saint-Luz, où il laissa les enfants selon sa promesse. Il combattit encore sur les remparts de Port-au-Prince, et lorsque la ville fut tombée au pouvoir du général Dessalines, il se sauva avec l'armée française à bord de la flotte anglaise, et il atteignit enfin avec sa famille la Suisse, sa patrie. Il acheta une petite propriété au pied du Rigi, et en 1807, on voyait encore, dans les bosquets de son jardin, le monument qu'il avait fait élever à son neveu Gustave et à la fidèle Tonie.